Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge qui accueille ce colloque lié au centenaire de l'attribution du prix Nobel de la paix au CICR en 1917. Quand Roger Durand est venu me trouver pour me proposer d'héberger ce colloque, j'ai évidemment tout de suite répondu oui, car il y a un lien naturel à le faire. Vous savez que notre musée héberge la partie la plus visible de l'action du CICR pendant la Première Guerre mondiale, à savoir l'action de l'Agence internationale des prisonniers de guerre. J'ai nommé le fichier des prisonniers de guerre qui occupe une place importante de notre exposition permanente qui est maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO Memory of the World. Et d'ailleurs que Daniel Palmieri et moi aurons le plaisir de vous présenter demain à 17h. Il me revient la tâche assez difficile de présenter quelqu'un qu'on ne présente plus, le président du CICR, Peter Maurer. Aussi, vous ne m'en voudrez pas, monsieur le président, d'être relativement bref et de rappeler que vous avez fait des études d'histoire et de droit international couronnées par un doctorat, avant d'entrer dans la diplomatie suisse. Vous aurez différentes fonctions avant d'être nommé en 2004 ambassadeur et représentant permanent de la Suisse auprès de la mission des Nations Unies, où vous aiderez au fond le jeune État membre à créer les liens multilatéraux dont il n'avait pas encore l'habitude à ce moment-là. En janvier 2010, le Conseil fédéral vous nomme secrétaire d'État aux affaires étrangères et vous êtes élu président du CICR le 1er juillet 2012. Depuis que vous occupez cette fonction, le budget de l'institution a passé de 1,1 à 1,8 milliards, ce qui, en l'occurrence, dans une institution comme celle que vous présidez, n'est au fond pas une très bonne nouvelle, puisque cela veut dire que le travail est de plus en plus conséquent dans un monde de plus en plus tourmenté. J'ai lu récemment une de vos interviews excellente à votre retour de Syrie, où vous disiez qu'une des missions nouvelles que l'on voulait confier au CICR était la réouverture des écoles. Et comme nous aimons bien les actions qui donnent de l'espoir dans cette maison, j'ai été très touché par cela, car réouvrir les écoles, c'est évidemment regarder vers l'avenir. Mais vous allez nous le dire encore mieux que je ne saurais le faire. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous passer la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Maillot, Monsieur Durand, mesdames et messieurs, de m'avoir aujourd'hui pour vous parler un peu du CICR et de la paix. Lors du centenaire anniversaire de la première fois que le CICR a reçu le prix Nobel. Et comme vous le savez, certains d'entre vous certainement, c'est un sujet qui est bien plus vieux que le centenaire qu'on célèbre aujourd'hui. Parce que depuis la création du CICR, la discussion sur l'humanitaire et la paix était une discussion difficile. C'est Gustave Moynier, en vue de la difficulté qu'on aura à la conférence de 1963, a commencé à réfléchir comment contre-argumenter contre ceux qui reprochaient au CICR de tout simplement s'attaquer aux conséquences de la guerre et non pas de réfléchir sur comment prévenir la guerre et donc construire la paix. Et c'est lui qui, dans un témoignage assez graphique et assez illustratif, donne cette profession de foi qui a, pendant de longues décennies, influencé le positionnement du CICR envers les questions de paix. C'est lui qui dit « c'est justement en attaquant les conséquences de la paix qu'on essaye, comme il dit, nous ferons plus pour le désarmement des peuples que ceux qui ont recours aux arguments économiques ou aux déclamations d'un sentimentalisme stérile. » C'est comme ça qu'il défendait un peu dans les discussions de 1863 déjà, les attaques que le CICR, en fin de compte, était en train de faciliter la guerre en s'occupant exclusivement des conséquences. Gustave Coignet évoque la critique de fond à l'action humanitaire afin la devancer dès la séance inaugurale de cette conférence de 63. Cette critique a accompagné le CICR, comme vous le savez, jusqu'aujourd'hui. Ainsi, la Croix-Rouge a non seulement été accusée de légitimer la guerre en cherchant à la réglementer, mais de pactiser avec la guerre et même de rendre la guerre plus acceptable en s'engageant au secourir des victimes. La Croix-Rouge n'en est pas moins restée fidèle pendant de longues décennies à la ligne, pendant des décennies qui avaient été celle à l'origine définie par Gustave Coignet, s'attaquer aux conséquences de la guerre sans s'en prendre aux origines de la guerre était un peu la devise dans laquelle cette organisation, pendant de longues décennies, s'est positionnée. C'est une ligne que la Croix-Rouge a suivie de façon constante, malgré le fait que l'espoir que Gustave Coignet avait en 1863, que la description graphique de la guerre était la meilleure manière de décourager la guerre, cet espoir ne s'est jamais réalisé. Les guerres ont continué malgré tout le travail d'avocat que le CICR entreprenait pour montrer les cruautés de la guerre. Le débat n'a pas fondamentalement changé quand les guerres ont eu comme conséquence des conséquences plus nombreuses et plus importantes au point de vue des victimes civiles, que les États se sont occupés de manière plus circonstanciée de ces victimes. L'argument n'a jamais vraiment changé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il est vrai aussi que durant de longues décennies, la Croix-Rouge s'est cantonnée dans ce rôle de bon samaritain, de celui qui panse les plaies provoquées par la guerre sans chercher à prévenir les conflits. La Croix-Rouge estimait en effet que la prévention de la guerre est une question politique du ressort des Nations Unies et des États, qu'elle ne pouvait s'engager sur terrain sans compromettre la neutralité et partant sa capacité de venir à l'aide aux victimes de guerre au cas de prévention, au cas où la prévention n'aboutirait pas. Cette attitude pourtant a trouvé ses limites à la lumière des armes de destruction massive et en général des conséquences des guerres modernes les plus graves pour les populations civiles. Dans ce sens, l'expérience des armes nucléaires à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le témoignage Hiroshima-Nagasaki que l'organisation avait et qui imprégnait l'organisation et la crise des missiles de Cuba d'octobre 1962 montre un exemple intéressant et peut-être un point tournant dans l'articulation des dilemmes autour de la paix et de l'action humanitaire. Si vous connaissez certainement tous le positionnement de l'organisation très, très tôt, en 1945 déjà, pour l'abolition des armes nucléaires, au vu de la conséquence énorme que ces armes avaient sur les populations civiles, les événements d'octobre 62 de Cuba se sont moins connus. Et j'aimerais peut-être en rappeler à certains d'entre vous, rafraîchir votre mémoire et vous montrer comment ce point tournant a mené le CICR et le mouvement de la Croix-Rouge à penser différemment de neutralité et de paix. Le dimanche 14 octobre 1962, deux avions d'espions américains de type U-2 survolaient Cuba et ont pris des photos qui démontraient que les soviétiques étaient en train d'installer dans l'île des rampes de lancement de missiles capables de transporter des armes nucléaires. Dans un discours télévisé, quelques jours après, le président Kennedy révélait au peuple américain et au monde stupéfait l'existence de ces bases soviétiques à Cuba et déclarait que cette présence constituait une menace intolérable pour les États-Unis, que les États-Unis avaient allé intercepter tout navire dans le rayon de 800 km de l'île de Cuba. Cette crise devait pour la première fois et unique fois de l'histoire voir les États-Unis et l'Union soviétique s'affronter directement au sujet de leurs armes nucléaires. Les États-Unis et l'Union soviétique rappelaient leurs réservistes et forces stratégiques étaient mis en état d'alerte maximum. Alors que les navires soviétiques faisaient route vers Cuba, les forces maritimes des États-Unis se préparaient à les intercepter. le monde entier retint son souffle. C'est une des premières crises que moi, personnellement, j'ai des mémoires en tant que jeune enfant. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi c'est avec une certaine émotion que je parle aujourd'hui. Le secrétaire général des Nations Unies, U Thant, amorçait une médiation, mais il se heurtait bientôt à la question du contrôle des navires faisant route vers Cuba. Dans la nuit du 29 au 30 octobre, il fit appeler le président du CICR, Léopold Boissier, pour solliciter le concours du CICR, déclarant que les Soviétiques et les Américains souhaitaient que ce contrôle fût confié au CICR qui offrait à leurs yeux les meilleures garanties d'impartialité. Cet appel allait placer le CICR devant un choix d'une extrême gravité, vu ce que je vous ai dit au début de ma conférence, parce qu'on était quand même sur la ligne que c'était très loin des questions dont le CICR devait traiter. Cet appel... d'un côté, en effet, il était évident que le mandat que les Nations Unies, à travers celles-ci, Washington et Moscou, souhaitaient confier au CICR, sortait du mandat traditionnel. D'autre part, il paraissait irresponsable de tout simplement dire non et de se compter sur l'interprétation restreinte de son mandat. Le président Léopold Boissier convoquait dans les plus grands secrets une session extraordinaire du comité dans un club très fermé de la ville de Genève, le cercle de la terrasse, afin de ne pas éveiller des soupçons à voir tous ses membres tout d'un coup hors horaire venir au siège du CICR. Les membres, comme pas de surprise, étaient divisés sur cette question. Les uns craignaient de voir le CICR compromettre sa neutralité et ses possibilités de continuer à secourir les victimes, et d'autres étaient plus positifs. D'autres miraient en avant l'impossibilité morale de refuser le concours que l'humanité était confrontée et au risque d'une guerre nucléaire, trouvait impossible de tout simplement dire non à ces questions. Le président Boissier rappelait que la déclaration des principes fondamentaux de la Croix-Rouge adoptée une année auparavant disposait que la Croix-Rouge favorise la compréhension mutuelle, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. Donc la notion de paix était tout à fait légitime de promouvoir. Un argument devait remporter la décision. Le professeur Schindler, éminent spécialiste du droit international, et là je reviens à la question des armes nucléaires à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, relevait que si la crise des missiles de Cuba débouchait sur une guerre nucléaire, le CICR serait de toute manière dans l'impossibilité de s'acquitter de son mandat vu les conséquences énormes humanitaires sur les populations. Cet argument basé sur l'expérience de Marcel Junot à Hiroshima en 1945 l'emporta et le CICR décida de répondre positivement à la demande des Nations Unies. En fin de compte, vous savez, le CICR n'a pas eu à exercer ce mandat qu'on voulait lui confier, mais le pas en avait fait néanmoins, et donc le pas important a été franchi alors que le monde était sous la menace d'une guerre nucléaire. Le CICR avait accepté d'offrir ses bons offices en vue de contribuer à parvenir à un conflit susceptible de mettre en danger la survie même de l'humanité. La 20e conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en 1965, devrait tirer les leçons de cet événement et apporter a posteriori son soutien à la décision du CICR en encourageant celui-ci, comme, et je cite, à entreprendre en liaison constante avec l'Organisation des Nations Unies dans un cadre de sa mission humanitaire tous les efforts susceptibles de contribuer à la prévention et au règlement de conflits armée éventuelle, ainsi qu'à s'associer d'entente avec les États en cause à toutes les mesures appropriées à cet effet. En dépit donc des circonstances exceptionnelles qui avaient motivé l'intervention du CICR lors de la crise des missiles, Cuba avait créé un précédent qui ne devait pas tomber dans l'oubli. Le CICR a offert ses services à plusieurs reprises, soit pour prévenir l'extension d'un conflit, soit pour contribuer à y mettre fin, soit pour résoudre des problèmes humanitaires entre des parties au conflit comme mesure de confiance et de lancement de pourparlers de paix. On peut mentionner le conflit du Sud-Liban et dans le sud de Beyrouth en 1982, où le CICR fut invité à contribuer à la mise en œuvre de cet accord qui a été trouvé entre entre les puissances régionales. On peut mentionner durant la dernière phase la terrible guerre civile qui déchira le Salvador de 79 à 1990, le CICR qui organisait plusieurs rencontres entre les représentants du gouvernement du Salvador et ceux de l'insurrection en vue de parvenir à des accords en vue de la libération des prisonniers. Et donc, les parties au conflit profitèrent de ces rencontres pour conduire des négociations politiques qui débouchaient sur un cessez-le-feu et à la fin de la guerre du Salvador. On peut mentionner l'occupation du Koweït en août 1990, qui provoquait une crise majeure entre l'Irak et une large coalition conduite par les États-Unis. Le CICR proposait une série de mesures en vue de dénouer la crise et là encore, on était impliqué dans un conflit hautement politisé et politique donc en tant qu'acteur humanitaire on essayait de jouer l'intermédiaire entre les parties. Lors du conflit du Chiapas qui déchira le printemps 94 cette vaste province du sud du Mexique, le CICR fut non seulement requis d'organiser sous les auspices des rencontres entre représentants du gouvernement mexicain et de l'insurrection zapatiste, mais fut également sollicité à contribuer à l'organisation d'élections dont la tenue représentait une exigence fondamentale pour les insurgés pour mettre fin au conflit. Donc bien que cette dernière tâche sortait manifestement de son mandat traditionnel, le CICR a accepté de s'en acquitter pour permettre le rétablissement de la paix dans cette partie du Mexique. Enfin, je mentionnerai le CICR a facilité à Cuba, encore à Cuba, en concours avec les États facilitateurs du processus de paix en Colombie, plusieurs sessions de négociations entre les représentants du gouvernement colombien et des FARC pour arriver, comme vous le savez, l'année passée à un règlement de paix entre le gouvernement colombien et les FARC. Cette chaîne de précédents permet d'établir une action du CICR dans le domaine de la prévention et du règlement des conflits sur des thèmes des fois liés et très franchement des fois pas liés aux questions humanitaires. Aujourd'hui, une bonne trentaine de requêtes, du ponctuel au plus circonstancié, sont en route, en parallèle, et qui sollicitent le CICR en tant qu'intermédiaire neutre pour prévenir une dégradation des relations entre les pays, une escalade de conflits ou de trouver une mesure de confiance consensuelle qui permettrait d'avancer dans les négociations de paix ou dans les efforts de cessez-le-feu qui sont en train de se mettre en place dans différentes régions du monde. Dans tous ces cas d'exemple, le CICR ne songe pas à se substituer aux institutions politiques que sont les Nations Unies et aux organisations régionales, mais d'apporter des connaissances humanitaires pour permettre des pas en direction de processus de paix plus substantiels gérés après par les Nations Unies et d'autres organisations internationales. Donc, force est de constater que la pratique de l'organisation a considérablement changé de celle des années fondateurs et de beaucoup de décennies après les années de fondation de notre organisation. Aujourd'hui, l'aspect prévention de conflits ou de prévention de la dégradation de conflits nous interpelle davantage. L'impact des conflits sur les populations civiles et les infrastructures civiles de plus en plus accentuées. L'urbanisation des champs de bataille avec effet incontestable de violence indiscriminée pour les populations civiles. La prolongation de la durée des guerres et des complexités croissantes entre les phénomènes de sous-développement, de violence, de corruption, de manque de respect du droit, ont fragilisé un nombre de pays autant que le dilemme entre paix et humanitaire se présente encore une fois d'une autre manière, parce que les effets de la guerre aujourd'hui, les effets néfastes pour les populations civiles sont comparables à des effets de guerre nucléaire, point de vue taux d'impact, de destruction sur les populations civiles. Je viens de passer, comme M. Maillot l'a relevé, en Syrie il y a une semaine. Si vous bougez dans le centre de Homs aujourd'hui ou d'autres villes de Syrie, si vous regardez l'infrastructure de destruction, ce n'est pas fondamentalement différent des images qu'on connaît de Dresden, de Hiroshima et de Nagasaki pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'effet cumulatif des développements mentionnés renforce la pression sur le CSR de renforcer l'action préventive au conflit. La réponse d'urgence inconditionnelle et court terme devient de plus en plus difficile à expliquer lorsque l'action humanitaire s'inscrit de plus en plus dans le long terme. Beaucoup d'entre vous savent peut-être que le temps moyen de présence du CICR dans un conflit aujourd'hui, dans les 10 conflits les plus importants dans lesquels on est impliqué aujourd'hui, est de 36 ans. 36 ans, ce n'est pas nécessairement ce que normalement vous direz, ça fait une opération de courte durée et d'urgence. Donc, c'est plutôt généreusement du moyen terme, sinon pas du long terme. Et donc, si on est confronté à une nouvelle situation, il faut aussi réfléchir d'une nouvelle manière à certaines problématiques. Mais je vous dis aussi, les bénéficiaires demandent que ceux à leur côté aujourd'hui soient là pour toutes les facettes de besoins. Ils sont de plus en plus de la peine, nos bénéficiaires, avec la logique de séparation entre besoins humanitaire, paix, développement, droits de l'homme et bonne gouvernance. Donc c'est aussi que les bénéficiaires de moins en moins comprennent cette logique qui dit voilà, on vous aide pour votre eau et pour vos besoins élémentaires, mais si demain vous avez peut-être un besoin un peu plus lointain qui est du besoin du développement, on s'en fiche. On ne peut plus travailler comme ça. Les donateurs et les citoyens dans les pays donateurs ont de plus en plus de la peine de répéter chaque année la même action humanitaire qui ne s'inscrit pas dans une perspective au moins de vouloir contribuer à une stabilisation de société et de paix. Et je vois ça toujours quand je fais du fundraising pour le CICR, n'est-ce pas? C'est difficile de faire comprendre aux contribuables que on est une organisation qui chaque année a besoin de plus d'argent, alors que l'argent ne semble pas avoir un effet et ne semble pas s'inscrire dans une logique de vouloir changer la situation et sortir de cette situation de conflit. Donc, avoir l'humanitaire sans perspective qu'on veut sortir de la situation du conflit et tout simplement d'accepter le fait que ce conflit dure encore une fois une dizaine d'années, avec des contributions de plus en plus importantes, devient politiquement de moins en moins acceptable. Au niveau des besoins, la réponse humanitaire aujourd'hui nécessite non seulement une réponse temporaire et individuelle en faveur des victimes, les conflits contemporains détruisent de plus en plus les systèmes sociaux de santé, d'eau, d'habitat et demandent une action plus circonstanciée dans la réponse aux défis. Par le travail en faveur des victimes et par la force de répondre aux besoins qui changent, l'action humanitaire change et se rapproche de l'action structurelle en faveur de la stabilisation de société et donc, en fin de compte, d'une action de paix. Si l'humanitaire neutre, impartial et indépendant reste une méthodologie incontournable pour une approche consensuelle au milieu des guerres et des violences complexes, il n'en reste pas moins que la pression des besoins nous force d'inscrire l'urgence dans la logique du long terme, l'individuel dans la logique de réponse systémique, l'humanitaire dans une logique de paix et de développement. Et si cette action ne peut pas se substituer à l'action politique ou se transformer en action politique de développement ou de droits de l'homme, il n'en reste pas moins que l'action humanitaire doit s'inscrire de plus en plus aujourd'hui comme une contribution à la construction de la paix. Les besoins des populations qui sont à la base de toute aventure humanitaire sont aujourd'hui en profonde transformation. On ne pourrait pas se contenter de l'humanitaire réduit à l'assistance santé ou habitat ou respect formaliste du DIH, mais de reconnaître que la paix, le développement des droits de l'homme représentent des besoins sur lesquels une organisation comme la nôtre doit offrir des perspectives. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire tout ça, mais il faut offrir des perspectives et montrer comment l'humanitaire est lié à ces domaines d'action et de besoins qui sont des domaines légitimes de population. Donc si nos méthodologies restent différentes entre humanitaire et organisation de droits de l'homme et de développement, beaucoup plus consensuelles que celles d'autres domaines, l'objectif de l'action humanitaire neutre et impartiale sera toujours un objectif de paix et donc hautement politique. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Le CICR a été créé, comme je vous ai évoqué, pour provoquer la fondation de sociétés de secours aux militaires blessés dans des différents pays, des futures sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et pour provoquer l'adoption d'un traité protégeant les blessés, les services de santé, les armes sur les champs de bataille. Il a été créé avec un objectif humanitaire et il est toujours resté fidèle à sa vocation première, même si les pères fondateurs entretenaient aussi l'espoir vague de paix pour les sociétés dont ils sortaient. Donc nos pères fondateurs n'étaient pas des gens, ne se considéraient pas que des humanitaires seulement. Ils avaient une vision de paix en fondant cette institution. L'évolution des guerres et des besoins de ceux souffrant dans les guerres ont conduit cependant l'organisation à accepter une extension pragmatique de son mandat au cas par cas, en vue de prévenir une guerre nucléaire qui risque de provoquer la fin de l'humanité, ou de mettre en œuvre des accords politiques avec une dimension humanitaire, ou de créer la confiance nécessaire pour bâtir des processus de paix entre belligérants. Elle était toujours prête, sur la base du consensus entre belligérants, d'entrer en matière sur des demandes de la communauté internationale. Ces initiatives se sont reflétées à la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1965, comme je l'ai évoqué, qui a encouragé le CICR d'entreprendre ce genre d'initiative. La compétence du CICR dans le domaine de la prévention des conflits est donc établie par une longue chaîne de précédents, étant entendu que la responsabilité première dans ce domaine appartient aux États et aux Nations Unies. Elle est accentuée aujourd'hui par l'impact énorme et la longévité des conflits et de leur impact sur les populations civiles. La compétence du CICR est toutefois soumise à des limitations, on le sait tous. En premier lieu, elle ne doit pas prendre aucune initiative susceptible d'affaiblir l'autorité des Nations Unies. En second lieu, et en raison des principes de neutralité et d'impartialité qui guident notre action, ne doit pas agir qu'à la demande ou avec l'assentiment de toutes les parties intéressées. Ainsi, le CICR ne saurait en aucun cas se prêter à une négociation qui viserait une paix séparée, tant il est vrai qu'une paix séparée n'est pas la paix, mais une manœuvre politique et un acte de guerre. Son engagement pour la paix sera toujours conditionné par le consensus solide entre les belligérants et de nous voir nous engager. Enfin, il est évident que le CICR ne doit pas prendre dans le domaine de la prévention des conflits des initiatives susceptibles de mettre en danger sa mission humanitaire. Ces contraintes sont importantes. Dans ce cadre, cependant, le CICR peut œuvrer en vue soit de prévenir un conflit susceptible d'éclater, soit d'y mettre fin. Il dispose à cet effet de précieux atouts. Le rôle d'intermédiaire neutre qui lui a été confié et qui était reconnu depuis la guerre franco-allemande de 1870, les principes fondamentaux qui guident notre action depuis l'origine de l'œuvre, le réseau des sociétés nationales qui nous permettent une lecture des besoins des populations à la proximité, enfin l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève qui nous donne une légitimité de parler à toutes les parties au conflit, qui est quand même une base légale assez unique. Ces multiples initiatives dont je vous ai parlé, que le CICR a prises ces dernières années et décennies, dans un nombre croissant de conflits, des fois seuls, des fois en coopération avec les Nations Unies ou ensemble avec un ou plusieurs pays facilitateurs, montrent le développement d'une philosophie de paix concrète qui met l'humanitaire au service de la paix. De façon plus générale, l'action humanitaire est fondamentalement un acte de paix au milieu des combats. Enfin, en cette journée du 8 juin 2017, où l'on célèbre le 40e anniversaire de l'adoption des protocoles additionnels aux conventions de Genève qui ont mis à jour non seulement les règles qui protègent les victimes de la guerre, mais également celles qui régissent la conduite des hostilités, je ne voudrais pas conclure cet exposé sans rappeler que le CICR est à la disposition des États et à toutes les parties impliquées dans des conflits armés ou d'autres situations de violence, non seulement pour s'acquitter du mandat humanitaire qui lui est dévolu, mais aussi, sous certaines conditions que je viens de rappeler, pour l'œuvre en vue du maintien et du rétablissement.